Deutsche Welle Magazine Santé.
Nouvelle année, nouveaux objectifs à atteindre. Pour y arriver, il nous faut de la détermination, mais aussi, et c'est sans doute le plus important, la santé. Tous mes voeux de santé donc à toutes et à tous pour cette nouvelle année que nous entamons. Pour ce tout premier numéro de votre magazine santé, nous nous intéressons cette semaine à la déficience intellectuelle chez les enfants. Alors de quoi s'agit-il et comment se fait la prise en charge? Réponse tout à l'heure. En seconde partie d'émission, il sera question d'hypothérapie. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine santé. Arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. L'Organisation mondiale de la santé définit ainsi la déficience intellectuelle. Les enfants atteints de ce retard peuvent ainsi apprendre à se lever, à ramper, à marcher ou à parler, mais plus tard que les autres. Autrement dit, ils apprennent plus lentement. Consommation d'alcool pendant la grossesse, problèmes durant la grossesse, maladies, les causes de la déficience intellectuelle sont nombreuses. Qu'elle soit légère, moyenne ou sévère, la déficience intellectuelle a des conséquences sur le quotidien d'un enfant qui en souffre. Mais les proches le sont tout autant. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, des organisations comme AREA, la Page Blanche, mènent donc des actions pour faciliter l'insertion sociale des enfants, mais également appuyer leurs familles et les professionnels de la santé dans la prise en charge. Le docteur Anne-Marie Niakadi est responsable de l'organisation. Elle nous précise d'abord comment identifier une déficience intellectuelle chez un enfant.
À l'accouchement déjà, deux fois dès la naissance, les médecins, le pédiatre qui assiste à l'accouchement sait que l'enfant a un problème au bout d'un mois ou deux mois. Et quand l'enfant vient à la Page Blanche, il rencontre le pédopsychiatre qui fait l'évaluation psychologique. Et une fois qu'il ressort de cette évaluation, que l'enfant est du ressort de la Page Blanche, il y a un mois qui est pris pour faire une évaluation de cet enfant, connaître ses aptitudes, connaître ses capacités. Et puis on demande toujours aux parents quelles sont les attentes du parent. Donc, en fonction des attentes du parent, en fonction des réalités, en faisant l'évaluation de cet enfant, au terme d'un mois, un programme personnalisé, un programme pédagogique est mis en place avec l'équipe paramédicale, le pédopsychiatre, le psychologue et les éducateurs spécialisés de la Page Blanche.
Un mot sur les causes. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant puisse naître avec une déficience intellectuelle?
Les causes sont multiples. Il y a des causes acquises, des causes pendant la grossesse de la maman. Si la maman a fait de la fièvre, si la maman n'a pas eu un bon suivi au niveau des consultations prénatales, l'enfant peut mettre en souffrance cérébrale. Donc déjà dès la naissance, on sait que l'enfant a un problème puisque il y a des cris de l'enfant. Si l'enfant naît et puis ne suit pas, on sait qu'il y a un problème, donc il y a une souffrance cérébrale. Ou ça peut être aussi pendant le parcours de l'enfant depuis la naissance jusqu'à la petite enfance. Il peut faire un palud, il peut faire des convulsions. Moi, par exemple, mon fils, à 3 mois, il a fait une varicelle. Il est rentré dans le coma. Donc, il n'est pas né avec le handicap. Il a acquis ce handicap durant son développement. Donc, n'importe quelle maladie que l'enfant a au cours de sa naissance, jusqu'à la période de nourrisson, jusqu'à 24 mois, il peut contracter une maladie, convulser, faire un coma et puis devenir handicapé. Ça peut être aussi des causes génétiques.
Pour être bien clair, un enfant peut naître en parfaite santé et ensuite avoir ce handicap plus tard.
Bien sûr, ça peut être acquis, ça peut être pendant l'accouchement, ça peut être à la naissance. Et même au cours de l'accident, il y a l'histoire d'un papa qui est en vacances, qui avait sa petite fille de 2-3 ans dans sa voiture. On l'a appelé au bureau pour lui aller juste donner des renseignements. Il a oublié la montée des vitres. L'enfant était dans la voiture, s'est endormi. Au bout de 4 heures de temps, il s'est rappelé qu'il avait son enfant dans la voiture quand il est descendu. L'enfant a manqué d'oxygène, l'enfant a handicapé. Donc ça peut parvenir à n'importe quel moment de notre vie. Adulte aussi, nous pouvons devenir handicapés.
Il y a plusieurs phases en ce qui concerne ce type de handicap.
Oui, ça dépend maintenant du type d'handicap. Si l'handicap a été contracté, et ça dépend aussi de la pathologie, si c'est un fibromoteur cérébral, c'est un handicap où le cerveau est touché, qu'on appelle il manque. Maintenant, l'infirmité n'est plus cérébrale. L'enfant peut avoir un retard, peut avoir une déficience motrice, mais c'est l'intellect qui est conservé. Mais du fait de ses incapacités motrices, il a un handicap, il ne peut pas marcher, il ne peut pas tenir un but, il ne peut pas écrire, il ne peut pas s'exprimer correctement. Tout dépend du niveau d'atteinte Donc, il y a des déficiences lourdes, des déficiences légères, des déficiences moyennes, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une déficience. Et pour les parents, justement, qui ont des enfants atteints de déficiences lourdes chez nous en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Parce qu'on se dit que l'enfant a des capacités, l'enfant peut marcher, peut parler, peut discuter avec vous, mais c'est pas, il est instable, il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge scolaire normale.
Et comment se fait justement dans ces cas la prise en charge en ce qui concerne l'éducation, l'aide à l'insertion au sein de la société de l'enfant?
Chez nous, à la page blanche, donc la prise en charge est médico-psycho-pédagogique. Et quand l'enfant devient grand, puisque nous avons maintenant 26 ans d'existence, donc on est confronté à ce problème, nos enfants, pour la moitié, sont devenus des adultes. Donc depuis la prise en charge à la page blanche, il y a pu mettre 10 ans, qu'on peut mettre un peu plus, on sait maintenant que ces adultes ont certaines capacités et on essaie de développer ces capacités au sein de la structure à travers la mise en place de projets d'apprentissage sociaux, donc notamment l'agro-pastoral, l'art, l'artisanat.
Et c'est un processus qui prend en compte également l'environnement, les proches, les parents de l'enfant concerné.
Bien sûr, au niveau de la page blanche, on a des rencontres qu'on appelle des guidances parentales, où les parents nous réunissons les soirs, certains soirs, avec l'équipe médicale et paramédicale, notamment les pédopsychiatres et les psychologues qui dirigent cette rencontre, cette guidance, où c'est un plateau qu'on donne aux parents pour que les parents puissent poser leurs problèmes et ensemble trouver des solutions. Parce que les parents qui disent que moi j'ai fait le problème à mon fils, c'est même pas le médecin qui donnera la réponse, c'est un autre parent qui dira que si, moi j'ai vécu ça, voilà comment j'ai réglé. Donc on se donne des astuces entre nous, mais de manière c'est encadré par l'équipe médicale et paramédicale, dont le pédopsychiatre et la psychologue.
Au niveau de la population ivoirienne, comment les enfants souffrant de déficiences intellectuelles sont perçus? Est-ce qu'il y a une sorte de stigmatisation?
Bien sûr, parce que notre culture africaine dit que nos enfants handicapés intellectuels sont des enfants géniaux, sont des enfants parfaits. Chez nous, on dit on les accompagne, c'est-à-dire qu'on les envoie au bord de la mer, on les laisse là-bas, on les accompagne. Si ce sont des génies, mais le génie de l'eau va venir les prendre, mais si ce n'est pas un génie, bon, en bref, on les élimine. Nous essayons de faire de la sensibilisation sur le handicap intellectuel, dire à la population que nos enfants sont des êtres humains à part entière, que ce sont des enfants comme tout autre enfant, ils aiment danser, ils aiment tout ce qu'un enfant, ils aiment s'amuser. Donc on essaie, mais ce n'est pas facile.
Est-ce qu'en fonction du degré du handicap, hein, une personne souffrant de déficience intellectuelle peut quand même à terme devenir autonome et pouvoir assurer tous ses besoins tout seul?
Oui, bien sûr. Ça dépend du handicap, ça dépend des capacités de l'enfant lui-même, de ses acquisitions. Et puis c'est à partir de cela qu'on essaie d'élaborer un projet. C'est le cas de Côte d'Ivoire, il y a maintenant 2 ans, en décembre 2015, nous avons fait un terrain pour pouvoir construire un centre plus grand qui puisse accueillir beaucoup plus d'enfants. Parce qu'actuellement, nous sommes limités à 35. Et nous sommes là, donc nous voulons faire un centre plus grand qui puisse accueillir moins de 50 enfants, avec un foyer et puis avec des espaces d'apprentissage professionnel. Donc nous avons besoin vraiment de l'appui de tout un chacun.
C'était les explications du docteur Anne-Marie Niakadi de Areia, la page blanche en Côte d'Ivoire. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le magazine Santé sur la Deutsche Welle. Direction à présent l'Algérie, précisément la province de Tiaret à l'est du pays. Là-bas, une association propose des séances d'hypothérapie aux enfants atteints du syndrome de Down, une maladie génétique. Elle survient quand un enfant naît avec 47 chromosomes au lieu des 46 habituels. Le chromosome supplémentaire est associé au chromosome 21. Il cause un retard dans le développement du cerveau et plusieurs anomalies physiques. Les enfants atteints du syndrome de Down peuvent avoir des difficultés avec les aptitudes sociales, des comportements impulsifs, du mal à se concentrer ou un apprentissage plus lent. Mustapha, âgé de 10 ans, souffre du syndrome de Down. Il vient tous les week-ends avec ses parents à l'écurie pour monter son poney nommé Faracha, ce qui signifie papillon. L'objectif, partager un moment d'évasion et de détente. L'hypothérapie est une technique de traitement physique, occupationnel ou orthophonique qui utilise le mouvement équin. Fégouli, sa thérapeute, a étudié en Allemagne, elle explique.
Ici, c'est Mustapha, c'est un trisomique. Bon, il fait une approche, il doit toucher le cheval, c'est-à-dire il ne doit pas avoir peur.
Il est également fréquent que les enfants atteints du syndrome de Down aient un faible tonus musculaire. L'interaction entre le patient, le cheval et l'environnement global peut ainsi être très efficace pour faciliter l'augmentation du tonus musculaire. L'hypothérapie peut également stimuler les fonctions psychologiques, cognitives, comportementales et de communication des enfants souffrant de ce syndrome. Ahmed, le deuxième thérapeute, précise.
Le malade, il s'approche. S'il commence à s'approcher du cheval, ça y est, c'est le commencement de guérison. Tu sais, les autistes, les trisomés, les malades, toujours sont loin. Mais avec le cheval, tu trouves, il y a une communication. Comme on voit Mustapha, il est toujours avec sa jument Faracha, il bouge avec, il fait sortir, il monte.
Si l'hypothérapie est bénéfique pour les enfants souffrant du syndrome de Down, elle peut toutefois également convenir à d'autres types de patients. Pégouli.
Pour les enfants handicapés qui ont eu des accidents, pour les personnes âgées même qui ont eu des accidents. Donc le cheval, c'est une très bonne méthode. C'est une thérapie.
C'est avec cette petite balade à cheval que s'achève ce numéro de votre magazine Santé. Merci encore pour l'écoute et encore une fois, très bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Happy New Year, Happy New Year, let's raise a glass, here's to you dear, now I was hoping that I'd find you here, just to wish you a Happy New Year. Kiss me pretty, when that ball drops on New York City, when that clock strikes, I'll pull you near, just to wish you a Happy New Year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking. Let's get shit-faced, let's get in the trouble.